mais tous les gars savent bien qu'ils doivent lundi matin retourner au boulot. Prestissimo, le saxo reprendra son pinceau, le trombone conduira son castone, le tambour retrouvera ses petits feux, et la pluie au bois ouvrira son bureau de tabac, la trompette retrouvera sa buvette, la petite flûte, ses petits pains et ses flûtes, le clairon livrera son charbon, et le tuba fera respecter la loi. J'arrêterai bien, moi, tous les musiciens, et je sais qu'ils jouent mieux quand ils ont la porte. De jolies majorettes défiant à la tête dans leur costume doré, elles font marcher la fanfare qui met la rue en fête, la fanfare qui ouvre les fenêtres, la fanfare, ça fait sortir les gens.
potes, venez chez moi, y'a pas papa. Aidez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bienvenue dans l'émission de l'Association des cinéastes documentaristes, ADOC. On a déjà traité le sujet. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler de deux films qui mettent en lumière le militantisme de deux femmes libertaires, Elliette Bess dans Aimer la vie de Nadia Genet et Dominique Grange dans N'effacez pas nos traces de Pedro Fidalgo. Bonjour Nadia.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour
Pedro. Nous sommes deux réalisatrices membres d'ADOC pour animer l'émission. Anne Galland, bonjour Anne.
Bonjour.
Et moi-même, Mélanie Trachler, et à la technique, Niki Velisaropoulou. Coucou. Donc on va commencer par présenter le film de Nadia, et puis d'abord te présenter Nadia, parce que c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission, et on est contente de t'accueillir.
Merci.
Donc tu es multicasquette, photographe, animatrice de radio, passionnée de musique punk. Tu as monté un atelier de théâtre pour les détenus, tu épouses un pêcheur, et vis aux Antilles où tu apprends à parler le créole. Tu deviens hôtesse de l'air. En escale, tu enregistres des sons et tu ajoutes aux photos. Et là, ce sont peut-être tes premiers pas vers le documentaire. En 2015, tu fais les ateliers Varan. Ton premier film, c'est L'Anarchiviste, où tu dresses déjà le portrait d'Eliette Bess, une militante de longue date, ancienne prisonnière politique, une femme on ne peut plus engager. Un portrait que tu vas poursuivre là avec le film dont on va parler, qui s'appelle « Aimer la vie ». Et donc, c'est bien sorti en 2021
Oui, c'est ça. C'est ça, mai 2021.
Donc, Eliette est anarchiste, révolutionnaire. Elle te fait découvrir petit à petit son monde. Elle te parle de son parcours. Vous faites une formidable virée en bagnole et elle te présente quelques-uns de ses proches. Parmi eux, il y a Raymond, son meilleur ami. Pourtant, ils ne se parlent plus depuis plus de 30 ans et c'est toi qui vas les faire se retrouver. Bravo. Et puis, il y a aussi Jean-Marc Roulian. Aimer la vie est un film plein d'amour, d'amitié, de loyauté. Mais tout de suite, on va d'abord en écouter un extrait où l'on comprend qu'aimer la vie, c'est forcément politique. Merci Niki pour l'extrait.
C'est à Paris, à Ménilmontant, que j'ai rencontré Eliette pour la première fois. Au sein de sa bibliothèque de consultation anarchiste, le Jargon Libre. Au début des années 70, ce fut d'abord une librairie dans le 13e arrondissement. Et si à travers le temps, le jargon a changé de quartier et de fonction, Eliette, elle, est toujours là.
J'imagine qu'elle est de travers. Bon, tant pis. Hein.
Pas autant que mon cadre, je te rassure.
Là, ben, c'est l'anarchie. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus l'étagère tourne comme ça. Regarde. Hop. Elle est plus droite du tout. Je sais pas pourquoi, elle a bougé. Et alors l'anarchie se resserre. Et en bas, c'est la révolution russe vue par les anarchistes et vue par les communistes. Enfin, pas, voilà, les deux, quoi. Le marxisme est à côté. Voilà, Lénine est de l'autre côté. Je crois que Trotsky est par là. Il est un peu caché, Trotsky.
Pour faire une photo de toi en portrait, t'aimerais que je te prenne en photo?
C'est l'anarchie ou la lutte armée, selon la place, selon la lumière qui te bat.
Ah, merci d'y penser.
Le Jargon Libre, JL, pour Jeunes Libertaires. En livres et en archives, Eliette constitue un fonds documentaire sur les luttes révolutionnaires à travers le temps. C'est aussi une association des amis qui se retrouvent régulièrement pour soutenir et permettre au lieu de continuer d'exister gratuitement.
«
Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller de toutes parts. Nous sommes beaucoup, nous sommes partout, ce n'est qu'un début, la lutte continue. Nous sommes tous unis en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous unis en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands.
Sur cet extrait, donc, on voit Eliette, elle chante. On peut savoir comment tu as rencontré Eliette et qu'est-ce qui te donne envie de faire un film sur cette femme.
J'ai rencontré Eliette en 2015, en fait, en allant aux Ateliers Varan, puisque les Ateliers Varan, le principe, c'est de faire un film court pendant la formation. Et le thème imposé cette année-là, c'était résistance au pluriel. Et je savais instinctivement que je cherchais de l'incarnation plus que... que j'avais plus qu'une idéologie, enfin chercher quelque chose de terriblement humain, et je ramais. Et puis des concours de circonstances ont fait que j'ai rencontré Jean, un ami d'Eliette, qui m'a parlé d'Eliette en me disant, écoute, elle aura peut-être une bonne idée pour toi, mais elle n'acceptera jamais de film sur elle, elle a tout refusé jusqu'à présent. Donc va la voir, et je suis allée la voir. Et c'est vrai que j'ai eu d'abord j'ai eu un coup de cœur pour sa voix, en fait. J'adore la voix d'Eliette. Quand même là, de l'entendre juste deux secondes, c'est une voix qui me touche profondément. Ça, c'est. Enfin voilà, je ne sais même pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Et quand je l'ai entendue parler, en plus c'était un jour où il y avait une manif à Paris. Elle était assise dos à sa vitrine, avec plein de jeunes à ses pieds. Ils discutaient d'une ZAD et tout. Et il y avait quelque chose. Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment d'être tombée dans un univers totalement, totalement à part, totalement, enfin, où le rapport humain était différent. Donc j'ai eu ce coup de cœur. Sur le moment, elle m'a dit oui pour le film d'école. Par contre, assez vite, quand j'ai commencé à la filmer, je me suis dit, elle, c'est un film, quoi. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire passer d'elle, enfin, en tout cas partager avec les autres, mais elle voulait pas. Ça n'était pas un sujet, parce qu'en fait, Eliette ayant soutenu Action Directe, toutes les personnes qui l'approchaient, c'était pour finalement aborder Action Directe d'une façon ou d'une autre. Et il lui a fallu assez longtemps, je crois, 2 ans ou quelque chose comme ça. Moi, je lui en parlais plus du tout.
Et un jour, qui est revenue vers toi.
Voilà, et un jour, on était en train de déjeuner, elle me dit, au fait, tu sais... si tu veux toujours faire ce film sur moi, je crois que tu peux y aller, parce que j'ai confiance en ta sensibilité. C'est exactement ça. Elle me dit, si tu vas pas aller chercher AD, et voilà. Et à partir de là, ce fut un autre parcours du combattant, mais c'est comme ça que ça a démarré.
L'histoire.
Voilà.
Passer la main à Anne qui va nous présenter. Bah d'ailleurs, dans la séquence qu'on avait, Pedro l'a aussi filmé, la même séquence où il y a Dominique Grange qui chante. Donc, merci Anne de nous présenter. N'effacez pas nos traces et Pedro.
Le Pedro Fidalgo qui est là, en face de moi, dans le studio de Radio Libertaire. Et c'est un vrai bonheur, cette émission où on vous reçoit tous les deux avec vraiment l'intention d'une discussion libre autour de vos deux films. Donc n'hésitez pas à intervenir. Avec Mélanie, on a préparé, donc bien sûr, on vous présente et on lance l'émission. Et puis ensuite, c'est vraiment une discussion. Donc Pedro Fidalgo, pour ton film « N'effacez pas nos traces », un film de 2022, de 96 minutes. Ton parcours, en quelques mots, tu as étudié le cinéma au Portugal, puis en France. Tu dis, je te cite, « Je suis arrivé en France fin 2005, dans le cadre d'un programme d'échanges universitaires. J'étais inscrit à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Et quelques mois après la rentrée, le mouvement contre le CPE et la loi pour l'égalité des chances chamboulait ma vie. Je crois qu'on peut dire de toi que tu es un cinéaste engagé, militant, que tu l'assumes, que tu te revendiques tel. En 2013, tu co-réalises avec Julia Prada le documentaire « Tu vois, nos voix ont des voix ». Puis en 2014, avec Nelson Guerrero, tu co-réalises et produis « Changer de vie », la vie et l'œuvre de José Mario Branco, le chanteur engagé contre la dictature de Salazar, alors âgé de 72 ans au moment où tu le filmes. En 2019, un très court film ciné-œil de 2 minutes, genre ciné-tract.
Il y en a 3.
Il y en a 3.
Ils sont 3, c'est un triptyque.
D'accord.
C'est pas un triptyque, ils vont ensemble.
Voilà.
Il y en a 3. La violence ne fera pas.
Ouais.
La violence ne fera pas taire le peuple qui comprend le ciné-œil. Et il y a un troisième qui me revient plus de titre maintenant.
Et c'était pendant le mouvement des Gilets jaunes, et c'est suite aux violences policières et aux mutilations liées aux tirs de LBD et de grenades. Mmh. Hein, donc c'est vraiment inscrit dans ce mouvement et dans cette horreur de cette violence qui mutile et qui tue. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ton dernier film, en salle, en ce moment, « N'effacez pas nos traces », dans lequel tu dresses un portrait de Dominique Grange, la chanteuse engagée, icône de l'effervescence politique de l'après-mai 68. Dominique Grange qui exprime toujours, aujourd'hui, par sa voix et son engagement, la même volonté de résistance à toutes les formes d'oppression. Lorsqu'elle dialogue avec les dessins de Tardy, son compagnon de vie et de lutte, ses chansons évoquent les récents mouvements sociaux et véhiculent les mêmes aspirations révolutionnaires. Pour en avoir une petite idée, on va aussi en écouter un extrait. C'est le début du film, mais pas tout à fait le début. On a beaucoup hésité, on avait envie de mettre tous les extraits, c'était compliqué. Il est tellement foisonnant ton film que... c'est difficile de faire un choix de quelques minutes qui donne une idée. Donc, c'est pas le tout début où on a tout de suite un prologue dans lequel tu nous fais écouter une interview de Dominique Grange en 68, au moment où on commence à l'entendre. C'est quelques moments après, à 3 minutes et quelques, juste après le titre, en fait. Donc, ton prologue, tu as le titre qui arrive. Et on va écouter cet extrait où on entend d'abord, je le dis pour les auditeurs parce que c'est pas évident, la voix de Tardy, qu'on voit ensuite dessinée à sa table de travail. Et puis, se mêle aussi la voix de Dominique Grange, qu'on voit, elle, sur les dessins de Tardy toujours, mais en train de commencer en train d'enregistrer son dernier album en studio, et on entend un morceau d'une chanson.
Partout où l'on rencontre des grévistes, à la Sorbonne, dans les manifs ou dans les usines, lors d'actions de solidarité ou de concerts de soutien, les revendications commencent à prendre une force inédite, remettant en cause le système et les conditions de travail.
Maintenant, ces manifestants refluent vers la place de la Sorbonne.
Le 3 mai 68, la Sorbonne est occupée. Le quartier latin devient le théâtre de manifestations massives d'étudiants et la répression contre ce mouvement se durcit à Paris et dans toutes les régions. Suite aux arrestations d'étudiants qui se multiplient, le mouvement social va rapidement se développer. Des centaines d'usines sont occupées et voilà, c'est la grève générale.
Je sentais que ce mouvement était très très fort, j'avais envie de le rejoindre, je ne savais pas comment faire. C'était la première fois que j'étais en contact avec cette réalité-là de la lutte. J'aurais voulu avoir écrit l'International. Je n'avais pas écrit des chansons révolutionnaires. Mais j'en ai écrit pendant le mois de mai, le fameux petit 45 tours, La Pègre, chacun de vous est concerné, Grève illimitée et À Bâle est un policier. C'était des chansons qui n'étaient pas déposées à la SACEM, j'avais pas de droit d'auteur, que je tenais à ce que ça soit diffusé par les comités de base révolutionnaires et que tout le produit des ventes aille au mouvement.
La Sorbonne libre, sans ciel odéo, partout l'amitié, la Sorbonne libre, ils nous ont chassés, à coups de matraque, ils nous ont volés, la Sorbonne libre, la Sorbonne libre.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, avec une réalisatrice et un réalisateur, pour une émission intitulée « Deux femmes libertaires ». On vient d'écouter un premier extrait du film de Pedro Fidalgo, « N'effacez pas nos traces ». Et comme tout à l'heure Mélanie l'a demandé à Nadia, je vais te demander de nous raconter un peu comment tu rencontres Dominique Grange et comment tu t'embarques sur cette réalisation.
Bah, tout d'abord, la première fois, que j'ai, mon premier contact avec les chansons de Dominique, parce que c'est les chansons qui m'ont amené à la rencontrer, ça a été en regardant un film de Jean-Michel Carré, qui s'intitule Le Ghetto Expérimental, 1973, si je ne suis pas en erreur, qui est un film qui fait un portrait de l'université de Vincennes de pause 68, quoi, donc de l'université qui a été fondée juste après. Et dans ce bouillonnement de gauchiste, on va dire, que cette fac représente, il va faire des entrevues à plusieurs personnes, et le film commence par une jeune fille sans papier allemande, parce qu'à l'époque, il y avait des sans-papiers allemands, on n'était pas encore dans l'Union Européenne sans frontières. Et elle raconte, en tant qu'étudiante, voilà, pourquoi elle n'a pas de papier, etc. Et le film donc, démarre avec un extrait d'une chanson de Dominique Grange, et aussi le générique de fin du film, Chacun de vous est concerné. Donc, moi, j'ai entendu ces chansons, j'ai apprécié parce qu'il avait un côté vraiment disque d'époque, ancien, vinyle, enregistré, ça se voyait avec des moyens assez simples. Et je me suis dit, bah tiens, ça, c'est intéressant, ça, il y a un petit son, même le grisaillement du vinyle, on le sent, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et je suis allé chercher, donc, quelles chansons existent sur mai 68, à part certaines que j'avais déjà entendues un peu. Pas celles écrites après 68, comme Léo Ferré ou d'autres, qui écrivent, mais écrites sur le tas. Ça veut dire, il y en a pas beaucoup de disques, il y avait Variste, il y avait le Comité pour le maintien des occupations, des situationnistes qui avaient fait des disques, mais il n'y avait pas beaucoup vraiment sur le tas. Contrairement au film précédent que j'avais fait avec José Mario Branco, qui était un exilé politique en 68 en France, et quand il démarre au Portugal pour la révolution des œillets, la chanson est déjà un outil de combat. Tous ces exilés, qui entre 68 et 74 ont beaucoup produit déjà, et ont déjà une matière que la population utilise dans les manifs pour inciter, pour combattre les régimes. Donc ça, je trouvais intéressant, c'est que 68, peut-être, il existait des chansons au-delà de la guerre, ou avant même la résistance au fascisme, mais sur les luttes et les grèves, à part peut-être certains chants plutôt stalinien, bon, il y a l'international, etc. Mais sur le plus récent, il n'y avait pas beaucoup. Donc, j'ai trouvé intéressant de revenir sur ces chansons-là, qui me touchaient un peu. Et je trouvais, bon, après, j'ai cherché, bien sûr, ce que Dominique faisait. Donc, j'ai vu qu'elle continuait à être femme combattante. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant. Non, pour faire un film uniquement hommage, bien sûr, c'est toujours un hommage quand on fait un film sur quelqu'un, mais pas un film de, parce que là, dans le synopsis, effectivement, on dit une icône, Dominique déteste qu'on dise qu'elle est une icône de 68, et elle a raison. Bon, effectivement, c'est pas peut-être la bonne expression, mais ça reste quand même une référence, en tout cas pour moi. Et donc, j'ai voulu aborder des questions, ces chansons, mais je voulais pas faire un truc sur 68 uniquement, parce que je n'ai pas vécu, j'étais pas en France en plus. Beaucoup de choses existent sur 68, dont l'ont fait. Et surtout, contrairement au Portugal, là, pour le coup, c'est intéressant, c'est qu'en 68, les cinéastes étaient vraiment présents. Donc, contrairement à la musique, où les musiciens étaient très, au Portugal, les cinéastes, c'était un peu moins. Il y en a eu des collectifs aussi, peut-être inspirés même des ciné-luttes ou des groupes Medvedkin. Mais, donc moi, j'avais envie de travailler sur ces chansons, mais de les ancrer dans le présent. Pas faire un film ou parler du passé, 68. Parce que ça, bon, effectivement, j'avais pas grand chose à dire et ça pourrait faire, même emmerder les gens, quoi. Parce que ça pourrait être mal fait, j'en sais rien. J'avais pas grand chose à dire là-dessus. Mais ancrer dans le présent et surtout qu'elle faisait un travail à ce moment-là, avec Tardy, autour de la guerre. On était en plein centenaire de la guerre, donc entre, je l'ai contacté en 2014, je pense. Cette période-là, c'est une période plus pour qu'on se connaisse aussi. On a filmé, parlé, discuté un petit peu. Mais j'avais pas beaucoup de matière pour aborder 68, parce qu'ils étaient à fond sur leur spectacle. C'est un super beau spectacle. Que si je m'étais embarqué juste sur le spectacle, tout d'abord Putain de guerre et après Dernier assaut, j'aurais fait un film sur la guerre. Et je pense que ce serait complètement notre film. On est très sur des thématiques beaucoup plus lourdes, difficiles même peut-être pour mobiliser, parce que j'aime bien que les films soient aussi des moteurs, des véhicules qui accompagnent les luttes. Donc, N'effacez pas nos traces, effectivement, actuellement, bon, il peut être ancré, ben, même dans le combat de la réforme des retraites. On voit très bien que c'est une suite d'autres choses. Les gens ne savent pas que la réforme des retraites qui les mobilise. Donc, le film refait un peu un point aussi sur les dernières luttes auxquelles j'ai pu participer directement, mais aussi celles dont Dominique est un, pour laquelle elle est engagée, pour laquelle elle a écrit des chansons, soit la libération de Georges Ibrahim Abdallah, dont je pense qu'il y a aujourd'hui une mobilisation, donc voilà. ou même la question de la libération animale. Alors ça, c'est des questions aussi très différentes, qui dans le film, il faudrait comment articuler toutes ces luttes. Et ça, je pense que c'était le grand défi du film, au-delà de l'autoproduction, que c'est toujours un choix que j'ai fait pour avoir peut-être plus de liberté, mais en étant plus conditionné aussi en termes techniques et de capacité de post-production. Mais c'était surtout ça, c'était l'articulation de ces plusieurs luttes, ces plusieurs chansons. Donc c'est parce que si les luttes sont abordées dans le film, c'est aussi parce qu'il y a des chansons qui ont été écrites sur ces luttes-là. Et donc c'était ce mélange. Bien sûr que la présence de Tardy a été importante, parce que non simplement j'aime beaucoup sa voix, et je trouve qu'il a vraiment une belle voix pour lecture de texte. Et donc c'était des enregistrements faits en direct dans le spectacle. Donc il n'y a pas de répétition, enregistrer un studio, c'est vraiment parfois un son, comme on dit, très, oui. Ouais, très cru, très, très naturel. Et il y a à la fois ces dessins, bien sûr, qui viennent illustrer et donner un peu de vie à l'histoire, quoi.
Et des textes qu'il écrit.
Oui, des textes qu'il...
Et qui sont en surimpression, soit sur ses dessins, soit sur des images de manifs ou que toi, tu as ramené. Enfin, c'est foisonnant, ce film, avec toutes ces strates qui se combinent. Juste une petite précision, mais après, on va passer à la discussion sur le fond, la forme et tout ça. Donc, Dominique Grange, tu lui proposes ce film. Elle est tout de suite d'accord, ou comment se passe cette... cet apprivoisement, enfin...
Mm-hmm. En vérité, je l'avais écrit par Facebook. J'ai cherché comment on l'a contacté. J'ai trouvé Dominique Grange sur Facebook. Bon, je me suis demandé, est-ce que vous êtes bien la vraie chanteuse de 68? Et oui, donc, et je l'ai écrit en disant, voilà, j'avais déjà fait un film, je lui ai montré ce que j'avais fait avant. Effectivement, le film Moudard Vida, Changer de vie, sur José Mario Branco, c'est un film aussi qui a été autoproduit, qui a bien vécu au Portugal. C'est un film, bon, dirigé plus pour le public portugais, qui avait gagné le prix Sofia, qui est un peu l'équivalent au César ici, local. Donc, c'est un film qui avait... J'ai voulu répéter l'expérience, en sachant que c'est très difficile quand on fait de l'autoproduction, parce qu'après, il se pose des problèmes de distribution, de diffusion. Et, mais voilà, je l'ai abordé en expliquant ma démarche. On avait pris le temps de se connaître, mais bien sûr, elle a vu que je m'intéressais à la chanson engagée, elle a vu le film précédent, et donc elle s'est demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Tu es une génération complètement différente, qu'est-ce que tu cherches? Je lui ai expliqué, c'était vraiment la chanson, tout d'abord, ce qui m'intéressait, et surtout le caractère social, historique, qui est la politique, quoi, que ces chansons véhiculent, parce qu'elles représentent des moments, des situations très précises, ces textes sont très directs, donc c'est très clair, ça se comprend très facilement de quoi il s'agit à chaque, soit la chanson pour Pierre Auvernet, Pierre est tombé, toutes ces chansons, donc c'est de l'histoire, si ça n'existe pas, difficile, peut-être on ne parlerait même plus de Pierre Auvernet, à part une minorité déjà encore qui tiennent de temps en temps dans un journal La Cause du Peuple ou des choses comme ça, qui disent encore un nouveau, La Cause du Peuple est revenue par des gens de nouvelle génération. Rarement on saurait qui était Pierre Auvernet. Donc revenir sur ça, l'importance dans, indépendamment qu'il soit maoïste ou anarchiste, ce qui intéresse, c'est qu'il y a un ouvrier qui a été tué à un moment donné, ça a marqué quand même en France son assassinat. Donc il y a eu une manifestation massive, énorme, où la population s'est mobilisée pour lui. Et donc dans le film, il y a une chanson qui permet de faire revenir sur cette histoire et rappeler que le mouvement social a une histoire aussi autre que celle des partis politiques ou...
Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant dans vos deux films, c'est qu'à travers des personnages singuliers, ces deux femmes, on en apprend sur notre histoire sociale, notre histoire des luttes. Et voilà, et c'est vraiment ce qui nous a donné envie de vous faire vous rencontrer et d'en discuter ensemble. On va faire une petite pause musicale après cette introduction, puis après on reprendra notre discussion. Alors cette pause musicale, elle est justement un clin d'œil à ce film que tu as fait sur José Mario Branco. Il s'avère que moi, ça me touche d'autant plus que moi, mon premier film documentaire, j'ai tourné avec un Portugais, Mario-Georges Bonito, qui était maquettiste graphiste à Paris, enfin, qui avait fui le Portugal à l'époque de Salazar, et qui avait connaissait, était ami avec José Mario Branco. Et il avait même écrit les paroles d'une des chansons de José Mario. Bon, c'est pas celle-là qu'on va écouter, mais voilà, c'était l'occasion d'écouter une chanson de José Mario Branco, Alerta.
Marie.
Pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta. Pelo pão que lhes rouba a burguesia, que os explora nos campos e nas fábricas. Operários camponeses hão de um dia arrebatar o poder à burguesia. Abaixo a exploração pelo pão de cada dia. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta. Só teremos a paz definitiva quando acabar a exploração capitalista. Camarada, soldado e marinheiro, lutemos juntos pela paz no mundo inteiro. Soldados ao lado do povo, pela paz num mundo novo. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Pela terra que lhes rouba essa canalha dos monopólios e grandes proprietários, camponeses lutam pela reforma agrária para dar a terra àqueles que a trabalham. Reforma agrária faremos, a terra ganha, trabalha. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta. Pela independência nacional, contra o domínio das grandes potências, fora o imperialismo internacional, que tem nas mãos metade de Portugal. Abaixo o imperialismo, independência nacional. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, não há povo que tenha liberdade enquanto houver na sua terra exploração. Liberdade não se dá, só se conquista. Não há reforma burguesa que resista. Democracia popular e ditadura proletária. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, as armas, alerta.
C'était donc Alerta, et pendant la pause, Pedro nous a parlé, et puis les auditeurs, ils aimeraient bien savoir.
Oui, brièvement, on ne va pas disperser du sujet du film, mais effectivement, Alerta, cette chanson que José Mario chante dans ce qu'on vient d'écouter, ça a été enregistré dans un cadre assez particulier, que c'était celui juste après la révolution des œillets, donc du coup d'état militaire contre le fascisme, et qui a déclenché une révolution populaire. Et en fait, il y a un groupe d'action culturelle qui s'est fondé juste après, qui regroupait tous les musiciens, et notamment ce groupe, bon, plus ou moins avec le temps, est devenu un annexe d'un parti politique maoïste au Portugal, ou UDP. Et José Mario, dans ce contexte-là, a composé, il chantait des chansons, mais aussi, il a fait des arrangements pour une chanson de Dominique Grange, qui s'appelle « Les nouveaux partisans » en français. Et au Portugal, ça s'intitule « Até a Vitória Final ». Et c'est une chanson, donc, et c'est la même chanson. Et juste pour l'anecdote, Dominique Grange et Tardy sont venus avec leurs musiciens à Corseam l'année dernière au Portugal, parce qu'on présentait le film à Grandola. Dans le cadre de la rencontre, il y a une rencontre annuelle de la chanson engagée, et donc ils sont venus chanter, et à la fin, quand Dominique elle a chanté Les Nouveaux Partisans, en français donc, elle ne s'attendait pas à que des Portugais se lèvent et qui chantent à la fin en applaudissant la version portugaise de la chanson. Ça c'était assez émouvant, voilà, c'est une chanson extra, voilà.
Des moments de grâce comme ça, tu as dû en avoir toi aussi pendant ton film avec Eliette. pas qu'un peu, parce qu'en fait, on découvre Eliette à travers ce qu'elle n'est pas pratiquement. Beaucoup d'ellipses. Il y a beaucoup ses amis qui la racontent, qui parlent de sa grande cohérence, parce qu'elle n'a jamais. Enfin, je ne sais pas, tu veux mieux en parler que moi, en fait. Eliette, si tu devais la décrire, toi, tu dirais.
Oh ben c'est cohérence, évidemment, le premier mot qui vient. C'est aussi beaucoup amour, parce que c'est ce qui m'a touchée chez elle, et c'est ce qui fait que, à la base, je devais pas du tout faire un film sur Eliette Bess, quoi. Bah, je suis allée vers le documentaire pour une histoire que j'avais commencée sur une zone de conflit oubliée, la guerre du Darfour, le Tchad, l'Est, etc. Enfin, rien à voir. J'étais dans un autre monde, quoi, en fait. Et puis, c'est vrai, chez cette femme, ce qui m'a touchée, c'est à la fois sa cohérence, et aussi, j'ai pris la mesure que ses idéaux politiques tenaient plus de son rapport à la vie qu'à une idéologie, en fait. Elle a vraiment quelque chose avec elle. J'ai aussi pris la mesure c'est quelque chose que j'ai relu chez Hannah Arendt, mais de l'importance politique de l'amitié. Et comment ces notions d'amour et d'amitié, enfin c'est ce qui tire depuis le début de sa vie, quoi, jusqu'à maintenant encore. Et donc l'endroit où politiquement elle s'est retrouvée, ce sont les idéaux libertaires, et ça ne peut pas être autrement ni ailleurs. Mais ça lui donne aussi une sorte d'ouverture d'esprit qui fait que, comme elle n'a rien à prouver, parce qu'elle l'est intrinsèquement, elle l'est profondément par tout ce qu'elle est, comme elle n'a rien à prouver, elle est super tranquille. Et du coup, elle n'a rien contre le fait de fréquenter des gens qui ne lui ressemblent pas, qui ont d'autres idéaux. Elle est solidaire de toutes sortes de personnes, ou de choses, ou de mouvements, sans avoir le peur d'être déstabilisée dans ce qu'elle est, ou de ne pas être reconnue comme une femme engagée, libertaire, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, parce que d'un seul coup, à travers elle, je pouvais aborder la question politique à l'endroit où moi aussi je l'entends, c'est dans le rapport à la vie. Ce qui fait que là, on ouvre des champs des possibles à l'infini. Et que ça permet à d'autres personnes. Moi, c'est une femme qui m'a fait me poser des questions. Et j'ai fait ce film pour permettre à d'autres de se poser des questions. Pas forcément sur les idéaux libertaires, plutôt sur soi, à l'intérieur de soi, où on en est de notre cohérence, où on en est dans le lien aux autres. Et tout ça dans le quotidien, en fait. Voilà.
Parce qu'en fait, elle est très généreuse avec toi, elle te donne énormément. Mmh. Et tu sais déjà, au début, comment tu vas placer, quand tu tournes, est-ce que tu sais déjà la construction de ton film ?
Non, parce que ça a été la préparation de ce film a été absolument laborieuse, en fait. J'ai, à la base, moi, c'est une femme que j'ai enregistrée pendant plusieurs jours en entretien, pour avoir sa vie. À partir de là, j'ai fait une transcription et des recherches. C'est-à-dire que je suis allée explorer tout. J'ai mis plus d'un an, quoi. En fait, j'ai écrit 180 pages sur sa vie pour être sûre de savoir là où j'en étais. Et j'avais écrit une première chose qui s'appelait pompeusement « Eliette Bess, une histoire de France », où on partait de maintenant et on remontait à son enfance. Et c'était vraiment un film beaucoup plus didactique, historique, etc. Mais j'avais rencontré Richard Copan, des films d'ici, qui m'a dit « Ben oui, c'est intéressant, mais en fait, c'est un film sur Eliette Bess. »
Il n'y a pas de toi dedans.
Et il me dit « Voilà, c'est... » Et il me dit « Moi, je t'encourage plutôt à aller chercher profondément à l'intérieur de toi ce qui te touche chez cette femme et qui fait que tu veux faire un film sur elle, ça fera ton film sur Eliette et pas un film sur Eliette. » Là, j'ai été en cale sèche pendant plus de 6 mois. Je voyais pas du tout ce que je venais faire là, en fait. C'était pas ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai touché quelque chose à l'intérieur de moi où j'ai compris ce que j'étais en train de faire et ce que je voulais mettre en lumière, en fait. Et puis, de là est né Aimer la vie. Après, comme il y a eu des grands soucis de production, c'est-à-dire que c'est un film produit, mais réalisé dans des conditions d'autoproduction, c'est passé par... pas avec Richard, mais avec l'autre coproducteur, où il y a une procédure juridique, etc. Donc c'est un film qui finalement est soi-disant produit, ou pareil, soi-disant il y a un diffuseur, mais en fait qui est mort-né, pour être très honnête.
On parlera peut-être plus à la fin de l'émission, voilà. C'est histoire de diffusion.
Mais du coup, je dis ça, parce que quand j'ai pu tourner, donc on est parti 3 semaines sur la route, ce que je savais, c'est que je voulais rencontrer des camarades d'Eliette, qui chacun portait un morceau d'Eliette, sans la faire parler elle sur ces sujets-là. Parce que quand on rencontre Eliette, la première chose qu'elle vous dit, quand elle vous parle de quelqu'un, c'est... en fait, elle ne parle pas trop de quelqu'un. Elle te met en lien avec cette personne-là. Et c'est comme ça qu'elle passe les choses et qu'elle fait faire des interconnexions. Et du coup, je voulais que le film permette aux spectateurs de passer ce genre de moment avec elle, en fait.
Il y a une scène, nous, qui nous a beaucoup... on a beaucoup aimé, où elle est sur son lit, on se demande, cette scène, là, elle t'offre quelque chose.
Ah ben oui.
Et comment ça s'est passé, peut-être, cette scène?
Là, c'est son cahier. Donc, en fait, on est parti pendant 3 semaines en voiture. Hein. C'est le principe du film.
Ah, donc c'est à l'hôtel, c'est pas chez elle?
C'était pas un hôtel, c'était une maison. On a dormi pas très loin de chez Raymond, en fait.
Je pensais que c'était elle, les broderies, en fait, dans le fond.
Non, mais c'est vrai que ça lui va bien. De toute façon, c'est elle qui avait choisi sa chambre. C'était pas un hasard. En rez-de-jardin, avec plein de... on la voit après dans ce jardin-là, justement. Mais c'est son cahier. Et son cahier, elle l'a pris. Et moi, je me souviens très bien, quand on est monté dans la voiture, c'est la première chose qu'elle m'a sortie. Et elle a commencé à me lire des extraits de son cahier dans la voiture. Dans la voiture, je ne l'ai pas filmé avec son carnet. C'était trop intime. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs jours, on en reparlait de ce qu'il y avait dans ce cahier. Et au bout d'un moment... J'ai dit, peut-être le plus simple, c'est que je prenne la caméra. Mais du coup, je n'avais pas pris ni l'ingé son, ni l'assistant. On était 4, en fait, en tournage. Je suis juste restée avec elle dans sa chambre, sur son lit, tel que c'est dans le film, en fait, quoi, où je la filme tout en lisant le cahier avec elle. Voilà.
On va l'entendre tout de suite, l'extrait d'Aimer la vie.
T'as une mère qui se saigne aux 4 veines pour... qui va bosser en usine, qui revient fatiguée, qui bosse la nuit, qui revient le matin. Elle ne pense qu'à une chose, c'est que toi, tu as mangé, que tu ne sois pas ramassée, que tu es encore plus révoltée parce que tu vois ta mère qui peine, ton frère qui galère, ta sœur qui est toute jeune qui bosse. Et c'est une révolte multiforme, quoi. C'est une révolte qui est une révolte contre l'ennemi, le nazisme, et qui est aussi une révolte contre la vie de con que te fait mener ces gens-là, quoi. Cette sensation de base qui fait que de se dire la solidarité, c'est la première des choses à faire. Après, on voit si on peut lutter ensemble, si on est d'accord, etc. Ça, c'est indispensable. Mais la première, c'est la solidarité.
Tu m'avais dit un jour que tu as toujours été d'abord du côté de celui qui a le plus besoin.
C'est ça, quoi.
Et que c'est comme ça que se sont faits des choix.
Ouais.
Tout le temps.
Je sais pas si j'ai fait des choix. Je sais pas si c'est la vie qui a choisi pour moi. Et après, ben... Après, c'est... Après, ça devient une seconde nature, quoi. C'est tout, quoi. Tu peux pas faire autrement, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça, quoi. Tu peux pas faire autrement.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, donc avec deux films, donc Aimer la vie de Nadia Jeunet et puis Pedro Fidalgo, N'effacez pas nos traces. Donc dans l'extrait, là, on entend Eliette qui se livre, et c'est très rare ces moments-là, dans... parce que la plupart du temps, elle est avec ses amis, elle laisse ses amis parler, on n'en dit pas autant, et ce carnet, bon, tu nous l'as bien expliqué, c'est de la poésie, c'est pas que sa vie, c'est des petites bribes, quoi. C'est...
Bah, comme elle dit, ce sont des morceaux de vie, c'est pas un récit, ce sont des morceaux de vie. C'est vrai que globalement, dans tout ce qu'il y a dans ce carnet, ce sont comme des, ouais, voilà, comme des petites scènes, des séquences comme ça qui surgissent, comme ce qu'elle écrit aussi après, qu'il y a dans le film. On parle du souffle de Sirocco, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a aussi donné un peu le rythme de la façon de monter le film, cette idée de les morceaux de vie et pas, comment dire, tout en éclipse en fait, puisque dans son carnet, ce sont des petits morceaux comme ça qui apparaissent. C'est à chacun. C'est elle qui fait le lien, c'est à chacun de faire le lien. C'est vrai qu'avec elle, j'étais assez à l'aise. En fait, c'est une femme qui, comment dire, a une telle liberté, tellement permissive, que même au niveau de la forme du film, ça m'a laissé plein de possibilités, en fait, parce que je voulais un truc qui lui ressemble à elle, quoi, en fait. Voilà. Et c'est vrai que ces morceaux de vie, comme elle le dit là, c'est quelque chose qui lui appartient fort, fort.
C'est vrai que contrairement à Dominique Grange dans le film, qui est vraiment là, enfin, qui est Eliette, elle se laisse aller. Elle te donne vraiment la main. Enfin, elle te laisse faire ton film, quoi. Vraiment. Je ne dis pas que Dominique Grange ne t'a pas laissé faire ton film, mais on sent plus que Dominique Grange. Je ne sais pas comment
expliquer. On a travaillé quand même ensemble, c'est vrai qu'on a fait des choix. Et elle affirme le côté militant, c'est sûr.
Justement.
Voilà, du coup. Pour vraiment être dans ce partage de ces deux films, on vous propose, avant de parler avec Pedro de la façon dont il a construit son film, de tout ce parcours, de tous ses choix de narration, de montage, on va écouter tout de suite un deuxième extrait du film de Pedro Fidalgo, N'effacez pas nos traces, parce qu'il résonne complètement avec ce qu'on vient d'entendre d'Eliette Bess dans le film de Nadia Jeunet, Aimer la vie. C'est effectivement un moment où les deux femmes se rencontrent et discutent ensemble.
Bon, bah, vous allez entendre maintenant Dominique Grange qui va nous chanter des chansons de mai 68 que tout le monde connaît. Et j'espère qu'après, on les chantera avec elle.
Oui.
Voilà.
Même si dans votre ville, tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
La chanson qui suit, je l'ai écrite au moment d'une campagne qui était faite et dont Eliette était un peu le moteur pour la libération des militants d'Action Directe emprisonnés depuis 20 ans. Il semblait qu'il fallait que beaucoup de voix s'élèvent et vous savez, une petite chanson, c'est pas grand-chose. Je crois que les chansons sont des armes et je m'en sers comme ça.
Un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, tu m'as mis un petit mot dans ma boîte, ouais, avec un bouquin. Ça. Je m'as dit, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on prenne un café ensemble. Et à partir de là, je crois qu'on on a plus cessé de se voir.
On a plus cessé de se voir, oui.
On allait en fait animer des débats. Bon, Eliette, évidemment, avec son expérience de l'intérieur, son vécu aussi récent, la prison, à partir aussi de la pratique que j'avais eue à la gauche prolétarienne. Donc on avait beaucoup d'échanges là-dessus, sur la fois l'héritage que ce mouvement avait pu laisser, ce que Action Directe en avait gardé ou pas, enfin voilà, les méthodes de lutte, la lutte armée, pas lutte armée, c'était encore des questions qui étaient posées, je ne suis pas sûre qu'elles le soient encore aujourd'hui. Enfin, tu avais organisé un peu la mobilisation autour de quelque chose qui s'appelait Défense Active.
Où il y avait des avocats et qui défendaient les camarades, quoi. Eux, ça les aidait à vivre, à l'intérieur, de savoir qu'on s'occupait d'eux et qu'il y avait des gens qui étaient actifs. Et puis en plus, malgré tout, je pense que l'État trouvait qu'on commençait à devenir un peu embarrassant, quoi.
Nous sommes toujours dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. On vient d'entendre un deuxième extrait du film de Pedro Fidalgo, N'effacez pas nos traces, et qui nous fait entendre cette conversation entre Eliette Bess, donc celle que filme Nadia Jeunet dans son film Aimer la vie, et Dominique Grange, qui justement, à ce moment-là, tu vas nous dire, Pedro, parce que par rapport à la construction de ton film, qui est foisonnant, comme je le disais au début, d'un mélange d'images d'archives, d'images que tu récupères, mais d'images que tu as faites aussi sur les différentes luttes, et ça c'est passionnant, de ces spectacles de Tardy avec Dominique, des chansons, du texte, des dessins, tout ça nous embarque dans un kaléidoscope, un patchwork de l'image de notre monde, de tout ce qu'on traverse et qui se répète quelquefois, ou qui en tout cas, c'est très important de ne pas oublier qu'effectivement, il y en a qui sont toujours là à porter cet espoir-là, cette parole, cette lutte. Et donc cette scène-là est assez particulière, c'est assez rare. En fait, tu as aussi eu, toi, des discussions avec Dominique Grange, assez intimes quelquefois, enfin en tout cas, elle te parle à toi, elle te raconte des choses, mais là, ce moment où elles se parlent toutes les deux, ça se passe à la librairie, je crois, en tout cas.
Oui, voilà. Ça se passe à la librairie du Jargon Livre, ce qu'il faut...
Bibliothèque.
Oui. Mais là, ça a été une librairie dans le passé. Hein.
Oui.
Malheureusement, c'est devenu une petite bibliothèque qui, heureusement, existe encore, ouais, et qu'il faut soutenir. Et vous avez la date,
c'est le 17, oui, les jargonneurs de Ménilmontant.
Voilà, pour soutenir le Jargon Libre, il faut venir. Mais juste, en fait, la question, pourquoi existe cette séquence au Jargon Libre et pourquoi Eliette participe dans le film? Là, l'extrait, bon, on a coupé, mais c'est juste après, il y a la chanson de Dominique Grange qu'elle a écrite de soutien aux camarades de l'Action Directe. Donc, toujours rebelle, toujours debout. Et c'est cette chanson-là, mon départ, pour aller vers Eliette. Ça veut dire, dès le moment où on commence à parler des chansons, qui sont un peu le moteur pour acheter un film, sont des chansons chanteuses engagées. Donc, c'est la matière de base, c'est son travail, c'est ses chansons. Et Dominique, donc, elle me raconte qu'elle avait été, avec Eliette Bess, très active dans un collectif pour soutenir les camarades emprisonnés, l'Action Directe. Et donc, c'est ce qu'Eliette vient de dire. Bon, je répète, c'était le collectif Défense Active. Et de là qu'on est allé à la rencontre d'Eliette, pour qu'elles en discutent un peu, comme c'était leur expérience de soutien, donc, aux anciens prisonniers d'Action Directe. Et la chanson toujours debout, Rebelle Toujours Debout, elle a été chantée aussi sur place. Mais comme j'avais déjà montré un extrait donc, de la chanson qu'on venait d'entendre là dans cet extrait, j'ai préféré la montrer en studio avec les nouveaux arrangements des accords Zéham. Parce que les accords Zéham, il faut le dire, et Dominique le dit dans le film, c'est très juste, ils apportent vraiment beaucoup aux chansons de Dominique, y compris celles que je connaissais par des versions anciennes et que j'adore vraiment les premières versions de ces 45 tours qui sont... Voilà, j'adore telles qu'elles sont comme ça, très simples. Mais c'est vrai, quand on les écoute aujourd'hui avec les nouveaux arrangements, voilà, il y a une autre vie qui se forme. Mmh. Et pour te répondre à ta question sur la construction du film, moi, je me basais sur ça. C'est comment transposer les chansons du passé sur le présent. Donc, en profiter du fait qu'elle réenregistrait avec les accords Zéham, c'était formidable, parce que non seulement il y avait aussi de nouvelles chansons, donc comme on parlait tout à l'heure, il y a la chanson Requiem pour les abattoirs, qui est une chanson voilà, qui est plus d'une thématique plus actuelle, une prise de conscience que beaucoup de militants de notre génération, qui était très portée sur la lutte sociale, n'avait pas trop tenu en compte, mais Dominique aussi, elle a pris cette conscience de la question des droits des animaux, et qui se battent de manière différente de nous pour leur survie, ils vivent, et donc cet extrait était nouveau, il était important à le mettre dans le film, il était enregistré dans ce studio, donc avec les accords Zéan. Et donc le jonglage entre enregistrement ancien et présent, c'était des choix qu'il faudrait faire. À quel moment on utilise des chansons anciennes, à quel moment on utilise les nouvelles versions, ou à quel moment on utilise juste la version qu'on a, et voilà, s'il n'y a pas d'autres versions. Donc j'ai préféré laisser les chansons anciennes que je considère comme documents archives. C'est, voilà, quand on entend « Abat l'état policier », il y a parfois comme musique de fond pendant qu'il y a une voix off. C'est, ça, c'était des choix considérés comme archives plutôt. On entend Daniel Cohn-Bendit, une petite phrase vers la Sorbonne qui dit « Il faut occuper la Sorbonne ». Et en même temps, on va aller avec une guitare. Bon, on entend un petit son de guitare de fond de l'ancienne version. Et après, pour illustrer dans les combats présents, j'ai utilisé les versions les plus récentes. Donc, je trouvais qu'il y a plus de basse, plus de volume. Donc, je trouvais que ça donnait plus de pêche aussi pour le spectateur qui a envie d'aller après manifester après le film. c'était ça l'idée. Le but. J'espère qu'elle réussit.
Parce qu'on la retrouve dans des manifestations plus récentes. Alors, justement, ma question, c'est... Ce film, on a l'impression que tu le construis beaucoup au montage. Quand tu nous parles, là, on se dit, ces choix-là, tu les fais au moment où tu es devant ton écran et où tu choisis comment tu vas articuler tout ça. Mais au moment du tournage, qu'est-ce que tu as déjà comme trame c'est après coup que tu vas aller chercher des archives à toi? Parce que tu en trouves pas?
Coûte trop cher, peut-être aussi.
Bon, tout d'abord, il y a ça. Bon, c'est un film autoproduit, donc il n'y a pas de sous. Il y a caméra prêtée par des amis. Bon, c'est un truc de base. Après, la construction de la narration de tous mes films, ça se passe au montage. Les gens me disent, oui, il faut écrire. Moi, j'écris pas beaucoup. J'écris pas. Enfin, j'écris pour avoir des idées, mais je construis mes films au montage. Mais je sais quand je filme, je sais comment je vais monter la séquence. La séquence, je sais comment je vais la monter. Comment elle va être après où est-ce que la séquence va se coller dans le film, avant ou après quoi, ça se construit beaucoup avec, on est dans le documentaire, on connaît très bien que les alias du documentaire sont très différents de ceux de la fiction, on a toujours des imprévus, on ne sait pas qu'est-ce que la personne va forcément dire, même si on a une direction de quelle ligne de conversation on va avoir, même si on a fait une recherche avant, on a discuté avec la personne, on a toujours des alias ou un imprévu. On doit s'adapter à ça. Mais sur la construction des chansons, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des thématiques très diverses et différentes, et il faudrait les coller. Donc je donne toujours un exemple très clair de c'est pour ça que je parle souvent de cette chanson de Requiem pour les abattoirs, pour comment coller cette chanson à côté de la question de la lutte contre le colonialisme en Palestine, contre la baletta policier, comment on va coller cette séquence-là. Donc, il faut prendre des accroches, il faut dérocher beaucoup, regarder attentivement toutes les phrases, écoutez bien ce que le personnage nous a dit sur la chanson pour pouvoir faire des ponts. Alors, par exemple, Requiem pour les abattoirs, Dominique, elle nous dit, tant qu'il y aura des abattoirs, les hommes seront en guerre. Ça nous fait un pont. Ça m'a fait un pont, permis de faire un raccord sur la question du spectacle, le putain de guerre, l'antimilitarisme, et revenir à la séquence qu'on connaît ici sur Radio Libertaire, avec Maurice Monté, secrétaire de l'Union Pacifiste, à parler de la question de la militarisation de la société. Mais c'est des accroches qui se font avec beaucoup de soin, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Mais il faut aborder les chansons. On ne peut pas exclure une chanson importante juste parce qu'on ne sait pas comment la coller. Mais finalement, on va bien voir que tout s'intègre bien et que les luttes sont vraiment présentes et elles font vraiment... elles sont transversales, quoi. Elles font pas uniquement intersectionnelles, mais aussi transversales, parfois. Et donc, on peut les allier et les coller. Donc ça, le film, c'est une expérience aussi de comment articuler les plusieurs luttes sans les discriminer ou penser qu'elle est plus... Cette discussion, donc, pour Requiem pour les abattoirs, bon, Dominique discute avec Brigitte Gauthier de l'association L214, Donc c'est aussi rare aussi qu'on, dans le milieu social de l'extrême gauche, par exemple, on invite L214, des associations qui se battent pour les droits des animaux, à être présents sur... Et quand le combat il est clair, même au niveau des abattoirs, il s'est dit dans le film, les conditions de travail sont très pénibles. Donc si on n'arrive pas à faire un pont entre ce qu'est ce problème de milieu des abattoirs et le milieu de l'assassinat de l'autre vivant, de l'espèce vivante, on ne peut pas poser des questions autres plus profondes après sur les luttes sociales et sur les conditions voilà, sur lesquelles l'exploitation, la domination...
Ce qui fait le pont souvent quand même, c'est la voix de Tardy.
Oui, il y a des passages oui, effectivement c'est, de transition.
Enfin, moi, c'est
oui.
plus là que... Tu oui. vois, ça, je l'avais moins senti, les chansons, oui. comment tu pouvais...
Ça, c'est plus... En fait, le rôle de la voix de Tardy qui a été enregistré sur leur spectacle pour les 50 ans de mai 68. Donc, spectacle chacun devait concerner, qui était la présentation d'un disque vinyle qui a été enregistré à ce moment-là, collecteur, pour les 50 ans de 68. Sa voix vient plus contextualiser la chanson.
Mais elle t'évite une voix off, toi.
Oui, qui vient une espèce de voix off, voilà. Dominique raconte son parcours, Tardy contextualise. C'est un peu ça, le rôle de la voix de Tardy dans le film.
Et toi, ce que tu veux rajouter, ça apparaît que, dans, des, oui. dans des petits... Oui. Comme en bande dessinée, dans des petits cartons.
Oui, ça, c'est des petits... Voilà,
Justement, ce qui est frappant, je trouve, c'est cette impression qu'on a d'une création partagée. Parce que toi, tu es artiste, enfin cinéaste. Moi, j'y mets le mot artiste à côté. Tardy, dessinateur, Dominique Grange, chanteuse. Tout ça, c'est des créateurs. C'est des gens qui vivent en créant, en étant dans ce dynamisme-là. Et au service de la lutte, mais comme elle le dit, et comme le disait aussi José Mario Branco, la chanson c'est une arme de lutte. Toi peut-être que ton cinéma est aussi une arme de lutte, en tout cas une façon d'exprimer, de faire connaître et d'exprimer ces luttes. Comment se passe, après c'est peut-être une question un peu bateau, mais... cet équilibre entre trois personnes qui chacune... Il y a un mélange de vos trois créativités, quoi, il me semble.
Oui, en effet, c'est quelque chose que, voilà, au départ, j'avais dit à Dominique, bon, si on peut peut-être mettre quelques dessins de Tardy dans le film, ça serait bien pour illustrer des moments voilà, historiques. Mais je savais pas trop le fil conducteur sur la voix de Jacques. Il est venu un peu plus tard. Tout d'abord, je lui avais pensé au moment où j'ai entendu le disque sur la guerre où les chansons sont il y a une voix de Jacques qui a dit un texte et après une chanson intercalée voilà basée sur leur livre, sur leur album, bande dessinée. Mais sur le spectacle, chacun devait concerner, ça se construisait. Et c'est au moment où il commence à construire, que je commence à accompagner les répétitions et que je vois qu'il y aura le même procédé, que je dis, là, effectivement, on pourra venir sur le film que je voulais à la base et que là, on pourra te construire ensemble. Il y en avait beaucoup discuté et ça, c'était très important parce qu'au niveau du montage, voilà, on s'est emporté avec Nadir Adjerioua, qui est le copain avec qui j'ai fait le montage. On a passé beaucoup de mois dessus. Et parfois, on est revenu même à venir tourner des séquences parce que, ou pour des raisons diverses, peu importe, une phrase mal dite qu'on ne pouvait pas la mettre comme ça parce que ça ne collait pas, il faudrait la remettre. Bon, il y a des choses comme ça. Et je voulais aussi, pour faire un pont aussi avec le film de Nadia, c'est qu'on a d'autres personnages aussi dans le film qui sont présentes. Par exemple, Suzanne Le Manceau, qui est aussi une camarade, amie à Dominique et Eliette. Et toutes ces autres personnes qui apparaissent dans le film ou dans les deux films, elles ont aussi leur rapport parce qu'en fait, elles viennent intégrer dans mon film, dans mon cas, c'était ça permet de créer des dialogues entre personnes, entre femmes, pour la plupart du temps.
Donc, c'est toi qui les imagines ou c'est Dominique qui te les propose ou Tardy?
Il y a les deux. Il y a les deux. Par exemple, Suzanne, c'est Dominique qui me l'a proposé parce qu'on était ici juste à côté, dans un restaurant à côté. Après être au cimetière du Père Lachaise. Et pas très loin d'ici. Bon. Juste pour dire que, voilà, après, elle m'a dit, si tu veux, on peut parler de la petite roquette. On peut discuter. Il y a Suzanne qui est là, elle pourra en parler aussi, parce que, voilà, pour parler de mucocarcéral, on pourra un peu discuter un peu de mon arrestation. Donc, c'est pour ça qu'on s'est déplacé à la petite roquette, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un square, mais qu'on est revenu. Mais c'était elle qui avait proposé que Suzanne vienne nous accompagne. Mais d'autres personnages, Brigitte Gauthier, c'était les deux, on avait discuté un peu, et je pense que c'était une idée qui était venue, c'est Dominique Miléger, je la connais, on peut se voir avec elle. Mais bien sûr, j'ai proposé à Dominique, qui tu crois qui pourrait nous, voilà, participer à certaines séquences ou autres, on a discuté, et le choix a été fait comme ça. Mais...
Et toi, Nadia, de la même façon? Avec
Eliette qui te propose.
Ouais. Avec Eliette, tu pars dans ce grand trajet en voiture et c'est elle qui t'emmène, c'est elle qui te propose ces personnes qu'elle a envie de revoir
À ce moment-là, Eliette descendait régulièrement à Lannemezan, visiter Georges Ibrahim Abdallah, justement. Et quand elle va voir Georges, elle fait des détours en voiture. N'importe quoi, pardon. Elle fait des tours en train pour là-bas. Elle fait des détours en train pour aller voir des copains, quoi. C'est-à-dire que quand elle descendait à Lannemezan, elle en profitait pour aller voir des copains, donc comme Jean-Marc qu'on a vu. Raymond, parce que c'est, voilà, quand j'avais fait ces entretiens avec elle, c'était comme je le dis dans la voix off, c'était le seul dont elle avait dit, ça a été mon meilleur ami. Elle n'avait jamais dit ça de qui que ce soit d'autre, y compris de ses amis à l'époque, des éclaireuses, des auberges jeunesse, etc.
Et c'est toi qui lui proposes de retourner voir Raymond?
Ben oui, parce que je trouve ça très difficile de faire un film sur elle sans l'amitié a toute son importance, sans la participation de celui qui avait été son meilleur ami. Et du coup, Eliette, sur le moment, m'a dit, ça m'étonnerait qu'il accepte. Et Raymond m'avait dit, enfin, au contraire, il avait été très ouvert, quoi. Et il se revoit au moment où le film, dans le film, quoi. Et c'est vrai que du coup, en fait, on est arrivé là-bas et j'ai éteint la caméra assez vite parce que ça devenait indécent, en fait, de pas les laisser vivre, ça.
Tu le dis d'ailleurs, c'est
et,
bien.
Et bah ouais, ça faisait partie du film. Et puis après, ben, par exemple, typiquement, Suzanne Manceau, à Lannemezan, c'était pas prévu. C'est parce que quand nous sommes arrivés, il y avait la fin d'une manif pour Georges à Lannemezan, et qu'on était tous dans le même hôtel. Et du coup, il y avait Suzanne, et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, quand je la filme dans la chambre, ça se fait comme ça. Enfin, là, on est vraiment sur du cinéma du direct, en fait. Oui. Il n'y a pas de...
différence.
Voilà, c'est-à-dire qu'autant, il y a eu des choses filmées, évidemment, qui... Enfin, ou des personnes qui ne sont pas dans le film, parce que ça ne s'articulait plus très bien, ou parce qu'il y avait eu... Voilà, mais il y a eu des moments de cinéma du direct pur et dur, en fait, tout simplement. C'est rentré comme ça dans le film, quoi. La seule séquence qui a été tournée en dehors, c'est la séquence, justement, au début du film, à la fois le concert de la Fraction à La Parole Errante. Donc, quand même, parce que la Fraction, symboliquement parlant, je ne pouvais pas faire autrement. Magali, c'est la grande, grande, grande amie de...
D'Eliette, ouais, effectivement.
D'Eliette. C'est une nana pour qui j'ai une admiration sans... Enfin, vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Là aussi, la cohérence, c'est implacable, voilà, elle est puissante, mais dans le vrai bon sens du terme, quoi. Et Dominique, au début, donc elle, la bourse au livre, mais à l'époque, quand j'avais filmé ça, j'étais pas encore tout à fait lancée dans le film, quoi. Je réfléchissais et tout. Et tout le reste, c'est ce qu'on a tourné au cours de ce voyage, pendant ces 3 semaines, quoi, voilà.
Ça tombe bien, parce que La Fraction, c'était... La chanson juste, on l'a choisie forcément parce que Mag, on ne pouvait pas faire autrement, pas faire l'émission sans La Fraction, donc un morceau du 3e album.
On l'a gardé au fond du cœur en marchant.
Vous êtes toujours dans l'émission « On a déjà traité le sujet » avec Nadia Jeunet pour son film « Aimer la vie et n'effacez pas notre race » de Pedro Fidalgo. On va reparler un petit peu effectivement d'Action Directe, puisqu'on a un extrait avec Jean-Marc Rouillant et Jean-Pierre Bastide. Et dans le film, Nadia, toi, avant de faire cette séquence, comment tu appréhendes cette séquence ? Est-ce que tu savais que tu allais la tourner ?
Je savais que j'allais la tourner, je n'avais jamais rencontré Jean-Marc. On arrive comme on arrive dans la séquence. Il n'y a rien de préparé. La seule chose que je sais, c'est que je ne viens pas pour parler d'Action Directe, puisque Jean-Marc, c'est l'arrêt obligatoire en allant à Lannemezan, ou alors c'est sur le retour, mais c'est inscrit dans la vie d'Eliette. Et du coup, on a commencé d'échanger, en fait. Là où Jean-Marc, pour moi, c'était, impossible. Ne pas évoquer cet aspect-là de la vie d'Eliette, c'était finalement donner trop d'importance. Donc, tant qu'à faire, autant le mettre. Mais par contre, ce qui m'intéressait clairement, c'était le rapport à la prison et à la lutte, en fait, révolutionnaire. Voilà. C'est un... Comme je disais, pour moi, chaque camarade représente un morceau de la vie d'Eliette ou un morceau d'idée, quoi.
Oui, parce qu'elle a fait de la prison aussi, effectivement, même si elle ne le dit pas dans le film.
C'est dit très rapidement dans la bof, mais Eliette a fait de la prison. Et puis, je me suis rendu compte, surtout... Alors, il se trouve que j'ai eu travaillé en prison. Donc, ça a été sur un projet que j'ai monté, pas parce que j'étais fonctionnaire. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, moi, dans mon quotidien et dans mes luttes, en fait.
C'est ce qui me touchait, effectivement, donc, aussi, peut-être, dans ce film, c'est ce qui ressort.
Bah aussi chez Eliette, parce que, en fait, je me suis rendu compte, qui plus est avec elle, qu'une fois incarcéré, c'est quand même très compliqué de réellement sortir de la prison, de l'autre prison. Il y a quand même un truc qui... Eliette, elle a été incarcérée pendant qu'elle était en prison, elle a continué de lutter. À la sortie de prison, elle a lutté. C'est ce dont elle parle avec Dominique. Et quand je vois qu'elle continue d'aller voir Georges Ibrahim Abdallah, moins maintenant pour des raisons de santé, etc., mais elle est toujours là et elle ne lâche pas. Il y a quelque chose où la prison, en fait, on n'en sort pas comme ça. Jean-Marc, c'est 28 années ferme. C'est aussi le représentant, j'ai envie de dire, d'un... C'est quelque chose de clivant, Action Directe. Ça a fait, l'engagement, le soutien d'Eliette auprès d'Adé, c'est quelque chose qui a fait péter, mais, déjà, ça a été la fin de la librairie Le Jargon Libre, initialement dans le 13e arrondissement, qui était un lieu de rencontre et de rendez-vous. Beaucoup de gens lui en ont voulu d'avoir soutenu parce que ça faisait péter quelque chose. Et du coup, c'était, et Jean-Marc, en fait, la discussion se fait autour de ce que c'est que d'aimer la vie, la lutte, la prison. Eliette et Jean-Marc sont d'accord et jamais d'accord, en fait. Ça, c'était quelque chose d'important à faire sortir aussi, parce qu'Eliette, c'est quand même une femme qui est très souvent d'accord sur le fait de ne pas être d'accord avec les autres. Tu poses pas plus de soucis que ça, quoi. Et sur le trajet, on va à Lannemezan réellement. C'est là, pour le coup, c'est de la vraie vie, quoi.
Bon, on va l'entendre tout de suite, cet extrait où ils sont tous les deux, où vous faites un bœuf aux carottes, je crois, c'est ça?
Un bœuf carotte.
Un bœuf carotte.
C'est comme ça qu'on dit.
Si c'est dans les mouvements révolutionnaires internationalistes qu'Eliette rencontre Jean-Marc Rouillant, ce qui scelle leur destin, c'est Action Directe, groupe d'extrême-gauche engagé dans la lutte armée. Pour les crimes et attentats commis, ils seront jugés, condamnés et lâchés par le plus grand nombre. Eliette leur apporte alors un soutien inconditionnel, infaillible, malgré sa condamnation à 6 années de prison. Lorsque nous nous arrêtons chez Jean-Marc, il reçoit également la visite de Jean-Pierre Bastide, un vieux camarade d'Eliette et lui.
Pour aimer la vie, faut foutre la société en l'air, c'est tout. Voilà.
Pour aimer la vie, faut foutre la société en l'air.
C'est-à-dire pour pouvoir vivre dans une vie telle qu'on l'a dans la tête, il faut foutre la société en l'air, quoi.
Dans une société qui est mortifère, le fait de lutter contre cette société t'amène un sens de vie. mais parce que cette société est vraiment mortifère. Elle a la mort de l'enfance, quoi. Voilà, aimer la vie, c'est tu peux mourir et aimer la vie et mourir.
Bien sûr, mais tu peux mourir parce que tu aimes la vie.
Sacrifier ta vie aussi parce que des fois tu aimes trop la vie et que tu ne veux pas la vivre dans cette vision réduite. Ah, celle-là, c'est bien, celle-là. Et voilà, et donc tu t'engages et tu luttes et tu te bats et tu. Et donc tu peux très bien mourir pour l'amour de la vie.
C'est ça, exactement ça.
Il y a des moments forts donc, de tournage. Dans N'effacez pas nos traces, c'est pareil. On a des moments où Dominique Grange est. Elle détruit une exposition de B68, c'est très drôle, quoi. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ce tournage. Est-ce que.
Bah, ce tournage, ça a été un peu intéressant parce que j'ai été voir l'expo une première fois. J'avais écrit pour demander si je pouvais. J'ai expliqué si je pouvais faire un petit tournage, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Et bien sûr, qu'on m'a demandé beaucoup d'argent. Venez un lundi, fermé, c'est fermé. C'est pour la presse, je ne sais pas quoi. Et c'était genre une demi-heure, 800 euros. Bon. Je leur ai dit, d'accord, bien sûr. Donc, je suis revenu encore vers l'expo à nouveau. J'ai bien observé. J'ai dit, ben, on viendra comme ça. On sera des spectateurs et on filmera comme ça. Et on a été. On s'est promené dans l'exposition en tant que spectateur. On a filmé, c'était pas à la sauvette parce que tout le monde pouvait voir qu'on filmait, on était là avec la caméra. Et j'avais pas vraiment remarqué, j'étais tellement concentré sur la manière comment je pouvais. Comment je devrais filmer, que j'avais pas fait attention à tous les détails de l'exposition. Et j'étais venu dire à Dominique, bah écoute. C'est l'exposition, mais il n'y a même pas tes disques. Ça dit que c'était pas vrai, ils y étaient. On les a retrouvés au moment où on a filmé. Elle dit, tiens, il y a mes disques. Bon, et elle fait la petite phrase.
On a choisi un extrait justement de ce moment-là, voilà. Donc on va l'écouter.
Je vois surtout des gens âgés. J'ai l'impression qu'ils viennent retrouver effectivement des émotions, peut-être face à des dessins, à des affiches, à des journaux, mais. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour un mec à 20 ans, aujourd'hui, 68, c'est comme nous, quand on était petits, la guerre de 14, c'est un truc de vieux cons, d'anciens combattants, ça doit leur faire le même effet. C'est ce côté figé, immobile, prisonnier presque, comme si on emprisonnait la mémoire, pour moi. Et ça me plaît pas. Enfin, j'ai pas grand chose à dire d'autre que ça, quoi. J'ai pas de commentaires à faire sur l'esthétique de l'exposition. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'il manque des choses? Je m'en fous complètement. Je suis venue ici pour dire que je m'en fous de cette exposition, comme je me fous des. Il y en a d'autres, hein. C'est pas la seule. Je crois qu'il y en a une à la Bibliothèque nationale. Je crois. Comme je me fous des hommages et des commémorations, quoi. C'est pareil. J'ai plutôt un écœurement que des sentiments d'appréciation. On peut pas résumer ça de cette façon-là. Enfin, qu'est-ce qui reste du mouvement social aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant.
Donc nous venons d'écouter un dernier extrait du film de Pedro Fidalgo. On commençait à en parler de cette séquence avant de lancer l'extrait. Effectivement, finalement, on n'a pas gardé cette petite phrase où elle reconnaît, vous retrouvez son disque qui est exposé dans une vitrine. Et on ne lui a même pas demandé les droits. Enfin,
oui, elle dit, on ne m'a pas demandé les droits de m'incarcérer sur une vitrine. Bon, c'est une phrase assez chouette que j'ai voulu garder dans le film parce qu'elle fait sourire un peu et effectivement... c'est pas si important, mais ce qui est important, c'est oui, c'est ce côté figé, comme Dominique vient de l'expliquer, dans le sentiment sur le tas quand on demande à la personne ce qu'elle elle ressent. Bien sûr que ça a été vraiment du life complet. Là, elle n'a pas une réflexion sur, on est venu comme ça, j'ai proposé la promenade, Et c'est vrai qu'elle s'est exprimée comme ça sur le tas. Et je trouvais que ça, c'est assez beau la manière comme elle a posé ses mots, ses phrases. Bon, peut-être aujourd'hui, on pourrait se dire, elle dit non, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Mais sur le moment, ça fait sourire. Et les gens savent très bien que c'est pas qu'on s'en fout pour 68, parce que le film, on en parle 68 avant. Mmh. On a bien marqué l'histoire. Donc. Mais c'est ce côté, effectivement, de quand on a une exposition, quand on a une. Quand on a des hommages, ce genre de choses, on a tendance à les. C'est fermé, voilà, c'est fini, là, c'était une époque, voilà. Mm. Bon, l'expo était même assez correcte parce qu'elle dépassait un peu 68, elle allait un peu aux années post-68, qui était considérée encore 68. Mais ça marque une époque, donc comme s'il n'y avait pas une continuité dans nous, dans le film, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a toujours une continuité et que les choses ne sont pas arrêtées, il y a des héritages dans les générations suivantes.
C'est ce qu'on voit dans vos deux films, d'ailleurs. Les deux films parlent de ne pas effacer des traces, ça tire aussi, Nadia.
Ben, moi, je sais... enfin, en tout cas, dans le film de Pedro, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des actes... En fait, il y a un moment, quand même, que j'ai beaucoup aimé, que je voulais dire, mais c'est le rapport de Dominique à son fils, avec les deux manifestations en parallèle... Au Chili, etc., ça m'a énormément touchée. En plus, je reconnais bien là ce dont j'ai beaucoup entendu parler dans les luttes passées, cette internationalisation des combats. Et nous, maintenant que tout le monde est sur des réseaux sociaux, ça semble vachement plus complexe. Mais à l'époque, c'était normal. Et j'adore ce passage entre le fils et, enfin, Dominique et son fils. Et je sais qu'à l'endroit d'aimer la vie, tu vois, le film se termine sur Lannemezan. Comment dire, c'est un lieu très important dans la vie d'Eliette et c'est assez improbable. Cet hôtel de la gare avec Nadine, avec les habitués. Et moi, je savais que je terminerais par ça parce que, genre, on parle de révolution tout le temps, on parle de, voilà, de ce que l'on voudrait détruire pour faire renaître des choses beaucoup plus simples dans le rapport humain. Et je trouvais qu'à Lannemezan, dans cet endroit-là, ça se vit. Y a des habitués du coin qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des familles de détenus, il y a des matons, il y a des gendarmes. Il y a une sorte de cohabitation tacite.
C'est un film, pratiquement.
Extrêmement bienveillante. Il y a eu un film qui s'appelle L'Hôtel des Longues Peines. Il y a eu un film jadis sur cet hôtel de la gare. Parce que c'est singulier, je me disais, c'est dingue. En plus, il y avait la fin de cette manif de Georges Ibrahim Abdallah, donc il y avait les soutiens de Georges qui étaient là, les pro-palestiniens, puis il y avait la Coupe du Monde de rugby en même temps, enfin, ça faisait un truc, et je voyais Eliette, mais alors comme un coq en pâte, qui parle à tout le monde, qui des filles qui étaient un peu perdues, parce que d'un seul coup, leur mec incarcéré à Lannemezan, et qui savent pas comment faire, puis des gars du coin, ils disent, bon, je vais vous emmener, enfin, sorte de solidarité, d'entraide, de bienveillance, machin. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça part un petit peu la tronche d'un monde idéal, quoi? Enfin, un endroit où tout peut réellement vivre ensemble, chacun à sa place, ne se sent pas jugé. Ça, c'est... Et je me dis, finalement, il y a des fois, il y a des traces qui restent comme ça. Parce que Nadine le dit, quoi, que c'est en rencontrant ce genre de personnes qu'elle a appris ce qu'était le non-jugement. Et ça, je me dis, ouais, c'est pas un mur qui a été démonté, c'est pas une bombe qui a pété quelque part. Mais bon sang, ça change le cours de quelque chose à un endroit, quoi. Et ça n'a l'air de rien.
Voilà. Je crois que vos deux films nous emmènent effectivement dans ces réflexions-là et ces prises de conscience. Évidemment, comme notre émission arrive à sa fin, on ne pourra pas développer plus. Et j'imagine que les auditeurs et auditrices ont très envie de voir vos films, maintenant qu'on en a entendu parler. Donc, où est-ce qu'on peut les voir aujourd'hui?
Alors, malheureusement, je n'ai pas de projection prévue là bientôt, parce qu'on vient de faire quand même pas mal de projections. Il est sorti une sortie en salle assez timide, mais depuis février, on a tourné pas mal en plusieurs salles. Et je pense qu'à la rentrée, il y a des septembre, il y a des projections qui vont se mettre en place. Bientôt, il sera peut-être en VOD aussi, sur Internet, et en espérant pouvoir quand même sortir, même si on sait que les DVD aujourd'hui n'est plus trop d'actualité pour certains.
Dommage.
C'est vraiment dommage. On tient à sortir un DVD dans les prochains mois. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, il suffit juste d'aller sur « N'effacez pas nos traces », sur Internet, vous allez trouver rapidement les liens, l'adresse mail que je répondrai. Si des gens veulent organiser des projections, c'est possible aussi. Voilà. Notamment, j'y pensais là, qu'on devrait peut-être faire une de soutien au jargon libre, justement, parce que on préfère deux, on pourrait des deux films éventuellement, quelque chose de, parce que Jargon Libre a besoin de soutien, donc il y a la bourse au livre bientôt, mais on pourrait aussi faire le,
bonne idée,
faire une projection. Il faut juste trouver l'endroit idéal pour le faire, où on puisse accueillir vraiment du monde de manière un peu confortable. Ça reste la proposition, on en discutera.
Ton film, Nadia,
attendez. Alors mon film, moi, il est sur une plateforme que j'adore, qui est une coopérative qui s'appelle Ciné Mutin, donc la plateforme des mutins de Pangée. Il est là. Alors moi, je suis, voilà, c'est Aimer la vie, Nadia Jeunet, pour le retrouver, parce que j'ai pas de site internet, où je suis pas du tout sur les réseaux, voilà. Et aussi, il va y avoir une projection aux Rencontres anarchistes de Saint-Imier, le 21 juillet. Voilà.
Voilà. Bah, ça va lancer l'agenda, du coup.
Voilà.
Vas-y, enchaîne.
On enchaîne sur notre agenda documentaire de l'association ADOC. Je vais être assez brève, et vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site a2doc.net. Mais quand même, on vous invite à venir voir notre prochain samedi d'ADOC, une projection débat au cinéma Le Luminor à Paris à 11h le samedi 10 juin. Pour qui danser, de Christelle Jubien. Et le débat sera animé par Catherine Richard en présence de Christelle Jubien. En hommage à Christiane Rorato, comédienne et réalisatrice, fidèle membre d'ADOC, qui nous a quittés le 1er avril 2023. Une projection de son film « Les oubliés du Transsibérien » est organisée le vendredi 9 juin à 20h par le ciné-club ACLI Paris Cappuccino, 28 rue Claude Tillier, 75012. Mardi 13 juin à 12h30, une séance du cinéma de midi à la BNF autour de l'exposition imprimée « L'Europe de Gutenberg » en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire dans le cadre de l'année du documentaire 2023. Vous pourrez voir un très ancien film de Myriam Delagarde, qu'on avait reçu dans notre émission sur ce plateau. Et c'est un film voix off, imprimerie de femmes, un film de 1984, dans le cadre d'une séance où son film est suivi par « C'est pas patron, c'est ouvrier » de Giorgio Di Nella. Un film de 2006. Le 17 juin à 19h à l'Aéry, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, à l'occasion de la rencontre contre les violences patriarcales de 15h à 21h30, vous pourrez assister à la projection du film Face à Face à 19h, un film de slam, lecture poétique, projection du documentaire Face à Face de Caroline Kim Morange. Caroline, une habituée de notre émission, et d'ailleurs, le mois dernier, c'était avec son film
Socorista
que nous vous avions rencontré. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Nous vous souhaitons un bon dimanche.
Et on se quitte sur une musique de Manu Chao.
Attends, on a quand même encore quelques annonces militantes. Donc, vas-y, Nadia.
Oui, il y a. Non, mais c'est ma lutte depuis un moment déjà. C'est Julian Assange. En fait, on organise un concert de soutien à Julian Assange pour remettre en lumière absolument sur lui, pour qui ça se passe très très mal en quartier haute sécurité à Belle Marche. Donc c'est un journaliste qui a juste révélé des crimes de guerre. Et ce sera le 3 juillet au théâtre de Jazé. Pour l'instant, Arthur H. et Amazigh Kateb ont confirmé. Donc voilà, il y aura plus d'infos sur un Twitter, je ne sais même pas comment ça se dit, comment on annonce, enfin Twitter Comité Assange.
Malheureusement.
Hashtag.
Voilà. Mais bon, 3 juillet au théâtre de Jazé. Voilà.
Malheureusement, c'est toujours trop court les émissions, donc on se quitte donc sur une musique de Manu Chao avec Fermin Muguruza pour rester dans le Pays Basque. Merci, au mois prochain. Au revoir.
Merci.
Sorry. di magazzino e mi dice che se ne è, ma è già fan, così te la, e la finita sali, daremo domenica, salta su della, fattura di gavea, ai se sali, 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 viva tu!
Il est 17h sur Radio Libertaire, 89.4 FM à Paris. Michel Polizzi avec vous pour une édition du Mélange. Jusqu'à 18h30, on aura de la fumée dans le poste à ce moment-là. Et on va commencer avec quelqu'un qui aurait eu 81 ans hier, né le 3 juin 1942, Curtis Mayfield, décédé il y a quelques années. Et ici, on l'écoute enregistré au début des années 70, Bitter End, à New York, il me semble bien. Avec We the People Who Are Darker Than Blue, Curtis Mayfield.
Darker than blue. Oh, we're gonna stand around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. Hi, yellow girl, can't you tell? You're just the surface of our dark deep well. If your man could really see, you'd know your color same as me. Pardon me, brother, as you stand in your glory, I know you won't mind if I tell the whole story.
to Henry Gibson. Yourself together. Learn to know your sign. Should we commit our own genocide before we check out our mind? I know we've all got problems. That's why I'm here to say, keep peace with me and I with you. Let me love in my own way. Even better yet, but there's the joker in the street loving one.